Donc du coup, cet atelier, c'est un atelier du groupe de travail économique du NPA qui s'intitule donc, le virus et la crise capitaliste, racines, déroulement et perspectives, donc avec Thierry à ma gauche et moi-même, donc moi c'est Rémi, qui allons faire donc, deux présentations. Thierry plus sur la caractérisation de la crise, en tout cas les dimensions économiques. C'est surtout ça qui va nous occuper dans cet atelier, donc les dimensions économiques de la crise du Covid-19. Donc la caractérisation de la crise, Thierry va en parler, et puis après moi j'enchaînerai plutôt sur les perspectives après la récession. Et du coup je laisse la parole à Thierry qui va commencer. Donc du coup l'idée c'est de... Je ne laisse pas encore la parole. L'idée c'est de... Là on part sur... une heure de présentation, donc environ une demi-heure pour Thierry et environ une demi-heure pour moi. Et après, on enchaînera sur le débat. On pourra faire une pause pendant le débat. Souvent, on fait ça aussi parce que, bon, voilà, c'est un peu, parfois, ça peut être un peu long. Mais malheureusement, en économie, souvent, on doit faire des ateliers assez longs parce qu'il y a des choses assez compliquées à expliquer. Voilà, donc, je laisse la parole à Thierry.
Ok. Donc cette crise économique, elle revêt un caractère assez particulier, tant par son ampleur que par sa forme. Donc 2020, c'était la plus forte récession depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, 3,6% dans le monde selon la Banque mondiale, 8,3% en France, selon l'INSEE. Voilà, alors ce qui distingue cette crise des précédentes, c'est avant tout qu'elle est la conséquence de l'arrêt de la production et de la circulation des marchandises décidées par les gouvernements, eux-mêmes, voilà, dans le cadre des mesures sanitaires, avec parfois aussi d'ailleurs des pressions de salariés quand même pour l'interruption de certaines usines, avec les droits de retrait qu'on a connus au premier confinement. Du coup, on peut même s'interroger en fait sur le terme de crise, qui désigne habituellement une chute de la production qui est liée aux contradictions internes du capitalisme. Or là, on a éteint l'interrupteur pour des raisons sanitaires. Alors, le fait d'interrompre la production, ça a quand même un certain nombre de conséquences pour le système capitaliste, qui se porte très mal de s'arrêter. Hein, d'ailleurs, Marx l'avait déjà mentionné dans une lettre à Kugelmann, où il écrivait « N'importe quel enfant sait que toute nation crèverait qui cesserait le travail. Je ne veux pas dire pour un an, mais ne fût-ce que pour quelques semaines. » Voilà, pourtant, donc, malgré ça, un an après, où est-ce qu'on en est? Il y a quand même une sorte d'optimisme qui règne actuellement avec le rebond de l'économie mondiale. Les dégâts semblent être somme toute limités. Alors la crise a coûté cher, c'est évident, mais elle a coûté cher surtout aux États et à un certain nombre de travailleurs évidemment, mais ce qui dérange moins le capitalisme. Voilà, donc les profits se portent plutôt bien, en particulier dans les grandes entreprises. Le CAC 40 a engrangé au final 39 milliards d'euros de profits en 2020, malgré les pertes du premier trimestre. C'était une baisse sans surprise par rapport à l'année précédente, mais ils ont quand même distribué 50 milliards de dividendes, donc ils contribuent. Pourquoi ils ne s'inquiètent pas tant que ça pour leur trésorerie. Et puis en plus, cette baisse a été rattrapée dès le premier semestre 2021, avec déjà 57 milliards d'euros de gains pour le CAC 40. Donc 25% d'augmentation, y compris par rapport à 2019. Les bourses sont aussi au plus haut. Hein. C'était brièvement effondré au début de l'épidémie, mais les liquidités versées abondamment par les États ont permis des achats d'actions en masse et faire remonter les cours. Voilà, du coup, c'est vrai que ça interroge sur cette crise. Voilà, où les entreprises finalement se portent plutôt bien. On envisage même un certain nombre d'investissements pour l'après-Covid. Alors évidemment, il y a eu plusieurs phases quand même sur lesquelles je vais revenir. J'ai mis la courbe là, de l'activité mensuelle des entreprises en haut et puis celle de l'emploi en bas. Voilà, donc je pense qu'on peut diviser cette crise en trois phases. Il y a la phase du premier confinement au printemps, qui est un peu la phase qui était la phase de panique, on va dire, dans cette crise, avec la grosse perte d'activité. Ensuite, il y a toute une phase d'incertitude à l'automne-hiver, avec notamment une offensive patronale contre les travailleurs. C'est une période où l'activité n'a pas rejoint son niveau, enfin, il est resté à un niveau en berne, on va dire. Et ensuite, il y a la phase de l'espoir, on va dire, pour le capitalisme, avec l'arrivée du vaccin, la possibilité de sortir de la crise sanitaire, etc. Bon, c'était peut-être avant le variant Delta, tout ça, mais Et voilà. Donc, pour revenir un peu sur ces phases, donc, le premier confinement, ça a marqué l'explosion du chômage, aux États-Unis notamment. En Europe, ça a été un peu limité avec le chômage partiel, qui a servi d'amortisseur, notamment en transférant les coûts des entreprises vers les États. Mais néanmoins, il y a quand même eu un certain nombre de pertes d'emploi pour tous les précaires, des jeunes, parce qu'il y a eu l'interruption des embauches, des fins de contrat. Il y a eu quand même 700 000 emplois qui ont disparu. Hein, c'est le décrochage qu'on voit sur la courbe en bas. Donc entre fin mars et juin. Voilà, du point de vue de l'ensemble de la crise, en fait, c'est ce premier confinement qui porte la grande part de la récession de l'année. C'est d'ailleurs une des particularités de cette crise hein, qu'il faut souligner, c'est que contrairement aux autres crises, en fait, c'est pas vraiment une crise où il y a une destruction du capital, une fermeture des sites, etc. C'est plutôt une interruption, une mise à l'arrêt temporaire. Donc c'est une des caractéristiques, y compris qui joue après pour la reprise, en fait. Voilà. Même si la baisse d'activité, y compris l'ampleur, du coup, c'est quand même 30% d'activité qui a été perdue pendant ce premier confinement, qui est quelque chose qui n'a jamais été vu. Hein. Bon, ensuite, il y a eu le déconfinement, avec un premier espoir que tout soit fini, hein, qui a duré jusqu'à septembre. Il y a eu quelques réembauches dans cette période-là, on a récupéré une partie des emplois qui avaient disparu, sans parvenir pour autant au niveau d'avant-crise. Mais surtout dans cette période, en fait, donc comme je l'ai déjà mentionné, on a vu arriver une offensive patronale avec la multiplication d'accords de performance collective, principalement pour réduire les salaires, des accords d'activité partielle de longue durée, hein, des APLD, qui permettent de flexibiliser le temps de travail dans une période de baisse des commandes. Et puis, il y a eu tout aussi ces entreprises qui ont sorti les RCC, là, les ruptures conventionnelles collectives, pour licencier à moindre frais. Il y a eu cette vague, une vague de suppression d'emplois qui, dans un deuxième temps, en fait, ne touchait plus forcément les plus précaires, mais y compris les qui sont en CDI, voilà, notamment dans les secteurs comme l'aéronautique, le transport aérien, le commerce, etc., y compris avec un certain nombre de plans, d'ailleurs, qui étaient prévus quand même de longue date. Hein, les PSE, donc, qui sont un peu la dernière roue des plans, des modalités de licenciement, ont commencé eux aussi à progresser rapidement. Hein. En mai 2021, donc récemment, on en était à plus de 1000 procédures de PSE initiées depuis le début de la pandémie pour 106 000 emplois, dont les trois quarts ont déjà été validés, qui sont en fait des PSE qui ont surtout été initiés entre septembre et janvier. Voilà, c'est principalement quatre secteurs, hein, la métallurgie, les bureaux d'études, les transports, le télé, l'assurance. Ouais, il y a eu quelques autres grandes faillites aussi hein, dans l'aérien. Il y a des grandes compagnies, notamment les deux plus grandes compagnies latino-américaines qui ont fermé. Enfin, plusieurs compagnies aériennes, même des grandes entreprises. Il y a eu l'exemple de Camailleux. Il y a eu des rachats hein, Conforama qui a été obligé de se faire racheter par son grand but. Donc, il y a quand même eu des choses qui sont passées dans cette période qui sont des phénomènes un peu de crise, quoi, avec des effets d'aubaine. Hein, on se souvient de la famille Mullier. Qui a racheté ses propres magasins à Guinée avec des ruptures de contrat et répudiation des dettes au passage. C'est une bonne affaire pour eux. Voilà, et c'est dans cette période donc, qu'ont commencé un certain nombre de luttes, hein, avec, notamment la lutte qui a un peu marqué l'actualité des TUI, hein, celle de Grand Puy et quelques autres. Voilà, dans cette période, en fait, c'était une période d'incertitude pour le patronat, incertitude sur l'activité, justement parce que c'est aussi la caractéristique de cette crise. Hein, Voilà, c'est l'incertitude hein, dans cette crise, hein, parce que toujours, c'est la caractéristique de cette crise, c'est que en fait, l'activité économique était soumise au rythme non pas de la dynamique propre du capitalisme, mais de la crise sanitaire. D'ailleurs, on a parlé de plan de relance ou de plan de stimulus, comme on dit aux États-Unis, mais en réalité, ça a surtout été des plans pour réduire les dégâts financiers des capitalistes et pas vraiment pour relancer la production, qui elle-même restait contrainte par la situation sanitaire. Voilà, en fait, il s'agissait surtout de rester paré pour la reprise, pour être en bonne position par rapport aux concurrents au moment où ça allait redémarrer. Et donc, toute cette période, la production est restée largement en dessous du niveau de 2019. Alors l'activité, donc d'ailleurs la dynamique en fait de fait, elle n'était pas la même pour toutes les entreprises puisque ça dépendait justement de l'impact de la crise sanitaire pour chaque entreprise. Hein. Donc il y a des statisticiens qui ont fait une évaluation des différents profils en fait pour les entreprises. Donc il y a celles en vert là, qui n'ont pas trop été affectées, ça représente un tiers des entreprises en gros. Donc c'est produits électroniques, industrie alimentaire, activité secteur médical, etc. Il y a ce qu'ils appellent des résilientes, entreprises résilientes, donc en dessous, qui ont été affectées surtout en fait, par le premier confinement, donc par des interruptions d'activité, des fermetures liées au fait que, voilà, qu'il fallait maintenir les conditions sanitaires de l'entreprise, donc certains ont dû fermer, ou des problèmes d'approvisionnement aussi parfois. C'est 38% des entreprises. Et donc celles qui ont le plus été impactées directement par la crise sanitaire, donc les entreprises confinées qui représentent 20% des entreprises, donc transport ferroviaire, bibliothèque, musée, etc., qui en fait ont beaucoup perdu au premier confinement, se sont un peu redressées et puis ont resubi à nouveau le deuxième confinement, et les déprimées qui représentent du coup 6% des entreprises qui elles sont restées fermées quasiment tout le temps, dans la culture, l'hébergement, restauration, le tourisme, le transport, etc. Voilà. Donc, ce qu'on voit, donc c'est ça qui caractérise cette crise, hein, c'est que c'est une crise qui n'est pas liée à la dynamique interne du capitalisme, mais surtout au rythme de l'épidémie. Ce qui fait qu'y compris les solutions de sortie de crise habituelles du capitalisme, si tant est qu'elles aient marché un jour, elles sont même pas vraiment opérables dans ce type de crise. Alors, dans la phase actuelle, en fait, donc depuis le début de l'été, on va dire, c'est la fin du printemps, début de l'été, ce qui apparaît quand même, c'est que c'est une sorte un début de reprise, une offensive patronale qui semble s'être amoindrie, enfin, certaines formes de offensive qui semblent s'être amoindries, le chômage est retombé. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on ne peut pas dire des choses. Mais voilà, en gros, le chômage au sens du BIT, hein, comme on dit, est retourné en France à son niveau de fin 2019, aux États-Unis aussi, il est retombé à 5%, après un pic à 15% en avril. Alors, sachant qu'il y a des effets quand même, bon, c'est le chômage BIT, donc on a certes le chômage qui est retourné à son niveau d'avril, mais ce qu'on appelle le halo autour du chômage, donc les gens qui n'ont pas de boulot, mais qui ne sont pas considérés comme chômeurs parce que. Ils n'ont pas assez cherché de travail ou ils ne sont pas disponibles tout de suite, en fait, c'est quand même resté à un niveau nettement plus élevé. C'est la courbe de droite. Voilà, il y a eu un énorme pic déjà pendant les confinements, puisque chercher du boulot pendant les confinements, c'est pas facile. Et puis, c'est resté depuis. Ça s'est retombé, mais c'est resté à un niveau très élevé. Voilà, et donc, en tablant sur un déploiement important maintenant sur l'établissement du capitalisme, en tablant sur un déploiement important du vaccin dans les pays riches, la Banque mondiale pronostique une reprise vigoureuse, sur terme, dès 2021, avec une croissance de 5,6%. Mais le problème, c'est que le vaccin,
C'est quoi le pays?
Le Bureau international du travail. C'est là, ceux qui définissent le chômage au niveau mondial. Alors, voilà, donc le problème, c'est que le vaccin, pour cette reprise, en fait, c'est que le vaccin, c'est aussi le reflet de cette société capitaliste, hein, donc il y a une inégalitaire, ce qui fait que, notamment, il y a une énorme différence entre les pays riches et les pays pauvres dans le taux de vaccination, et donc y compris du coup, dans les perspectives de reprise économique. Hein. Ce qui se traduit dans les prévisions de la Banque mondiale, hein, qui prévoit donc que la Chine et les États-Unis soient portent à eux seuls la moitié de la croissance pour 2021, avec les pays émergents en développement qui vont avoir une croissance plus réduite, hein, de 4,4%, mais qui sera en fait essentiellement portée par la hausse des prix des matières premières, où ils sont souvent producteurs. Ce qui veut dire croissance par la hausse des prix, ça veut dire aussi que ça ne donne pas forcément plus d'emplois pour les travailleurs. Et pour les pays pauvres, en fait, ils sont nettement à la traîne, y compris la Banque mondiale avertit que le revenu par habitant de ces pays sera ramené 10 ans en arrière en 2021. Restera 10 ans en arrière en 2021. Voilà, tout ça, et en plus, c'est les prévisions donc, avant Delta et autres variants. Ce Covid n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, on va aller en détail, il pose un sacré problème aux capitalistes qui peuvent craindre justement de nouvelles reprises des confinements, etc. On voit ce qu'on voit notamment en Asie du Sud-Est. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Asie du Sud-Est qui avait été relativement épargnée jusque-là, le Vietnam vient de monter en juillet à 8000 nouveaux cas par jour. Ce qui fait que toutes les grandes marques, hein, Adidas, Nike et consorts du textile, ont dû fermer leurs usines. Voilà, elles avaient d'abord voulu se protéger en demandant aux ouvriers de dormir et manger sur place dans l'usine. Bon, ça n'a pas marché. Voilà, alors que le Vietnam, c'est quand même 8% de la production mondiale, hein, de textiles, habillement, chaussures. Nike produit la moitié de ses chaussures. Voilà, donc il y a eu une menace de pénurie de baskets. Voilà, alors l'effet positif quand même, c'est que les patrons des grandes marques font maintenant pression sur le gouvernement américain pour accélérer la vaccination dans le reste du monde, ou du moins dans les pays où ils ont des outils. D'autant que, en fait, ça a transféré la production ailleurs, comme au Bangladesh, qui est un autre producteur public, qui aurait pu récupérer une partie. En fait, ça, c'est pas forcément valable, puisqu'ils sont aussi touchés en ce moment par la vague Delta fortement, mais avec un gouvernement visiblement plus conciliant, puisque les donneurs d'ordre occidentaux ont obtenu que les usines qui produisent pour l'exportation puissent rester ouvertes. Donc, évidemment, au détriment de la santé des travailleurs. Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui, en fait, surtout avec ce nouveau variant, la pandémie continue d'imposer ses rythmes à l'économie mondiale. Voilà. Autre élément, voilà, après avoir discuté donc, de ces différentes phases et des rythmes du capitalisme, c'est, je voulais aborder quelques autres questions, donc la question des faillites. Hein, que tout le monde s'attendait à une vague de faillites avec le problème du tarissement de la trésorerie des entreprises avec la fermeture. En fait, au final, il y a moins de faillites que les années précédentes. C'est ça, c'est une des nouveautés. C'est un phénomène quand même assez particulier dans cette crise. On voit quand il y a eu la crise de 2008, il y a plutôt eu un bond des faillites, ce qui est habituel dans une crise. Et là, il y a eu un effondrement du nombre de faillites, ce qui est évidemment lié aux aides massives de l'État. Hein. Donc, soit le chômage partiel, des reports ou des annulations de cotisations sociales ou d'impôts, le fonds de solidarité pour les secteurs les plus touchés, les prêts garantis. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la trésorerie des entreprises, en fait? Alors, il y a eu une forte hausse de la dette des entreprises. Elles sont endettées de 217 milliards d'euros, quand même, sur la Banque de France. Donc, c'est un bond de 12% en 2020. Mais en fait, en même temps, leur trésorerie a aussi bondi de 200 milliards d'euros. Voilà, donc en fait, l'écart, c'est que 17%, 17 milliards en moins. Voilà, parce que en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que les entreprises ont l'habitude de préférer, avec les taux d'intérêt qui sont très bas, et en plus, là, avec prêts garantis par l'État, les entreprises préfèrent en fait s'endetter pour utiliser l'argent des banques et garder le leur dans leur caisse. Autant que c'est ce qu'on appelle le free cash flow, c'est devenu un critère de rentabilité financière pour les caisses des entreprises parce que ça leur permet d'aller racheter des concurrents assez rapidement ou de faire des investissements rapides s'ils ont besoin. Et puis, quand eux-mêmes se font racheter, ça plus souvent, ça permet de financer le rachat a posteriori par celui qui l'a racheté, ce qu'on appelle les LBO. Voilà, donc en fait, finalement, le risque de faillite, comme ça, au niveau global, il paraît réduit, puisque la trésorerie, finalement, ça n'a pas trop pesé sur la trésorerie des entreprises. Après, il faut regarder aussi, parce que c'est vrai qu'il y a la question de savoir est-ce que c'est les mêmes entreprises qui ont des dettes et celles qui ont renforcé leur trésorerie. Donc il y a des chercheurs qui ont fait l'étude pour savoir. Donc, ils ont regardé par des micro-simulations, je ne vais pas détailler les techniques, mais voilà, donc, ils ont regardé quelles étaient les entreprises qui avaient gagné, quelles étaient qui avaient perdu. Et ils trouvent, donc en fait, sous plusieurs hypothèses, parce qu'il y a. Voilà, donc c'est là, à gauche, hein. En haut, c'est s'il y a eu le même comportement des entreprises en termes de dividendes et d'investissement. Donc en gros, il y a 60% qui auraient perdu, donc 31% perdu plus de 30 jours de chiffre d'affaires. Et 40% qui gagnent. Si on considère que bon, elles ont sans doute moins investi et ce qui est vrai, et moins versé de dividendes, ce qui a été vrai aussi pour 2020. Voilà, il y a déjà on a un peu moins d'entreprises qui sont en perte, Et puis si on rajoute ensuite après coup, ce qu'ils ont tenu compte après, c'est les aides en fait. Que ce soit l'activité partielle ou le fonds de solidarité, en fait, on arrive à 51% d'entreprises qui ont plutôt perdu d'argent, de trésorerie. Et en fait, on regarde, si on compare avec la ligne tout en bas de 2018, c'est que c'est pas très différent d'une année normale. En fait. Voilà. Ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a quand même plus d'entreprises qui ont un trou qui est supérieur à 30 jours de chiffre d'affaires. 24% au lieu de 13% en 2018. Donc il y a un certain nombre d'entreprises quand même qui ont des difficultés de trésorerie, sans tenir compte des prêts garantis par l'État. Mais voilà, donc c'est pas non plus ultra massif.
Quand tu dis une année normale, depuis 2008 ou une année normale?
C'est 2018. C'est de...
Oui, d'accord. Une année normale.
Avant. Ouais, après, il y a des différences par secteur. Hein. Il y a certains secteurs qui sont plus affectés, notamment l'hébergement, restauration, les transports, l'immobilier aussi. Voilà, donc il n'y a rien qui garantit réellement qu'il y ait une vague de faillite après ça. Alors, par contre, il y a des différents nouveaux problèmes qui sont survenus. Je vais essayer de continuer. Notamment, il y a le problème en ce moment, il y a un énorme problème au niveau du transport maritime hein, qui ralentit la production. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a déjà une reprise de la consommation qui est arrivée assez vite sans forcément qu'ils aient anticipé, avec une demande en hausse sur certains produits, notamment de l'électronique, qui sont des produits qui circulent, qui doivent circuler dans toute leur phase de production et sont souvent assemblés en Chine et vendus ensuite aux États-Unis ou en Europe. Mais ça ne s'explique pas que ça. Il y a eu aussi l'histoire du blocage du canal de Suez qui a fait perdre quelques jours à un certain nombre de bateaux. Mais il n'y a pas, évidemment pas que ça en fait. Les problèmes en fait, qui sont liés à la crise sanitaire et à la politique des transporteurs, en fait, c'est déjà le problème que c'est vrai que tous les conteneurs vides étaient restés aux États-Unis parce que la Chine n'avait pas voulu les recevoir dans le cadre de ces mesures sanitaires. Donc il a fallu très vite les ramener en Chine dès que ça y a eu la reprise du commerce. Ensuite, il y a quand même une reprise simultanée du trafic sur tout un tas de produits dès que ça a été ouvert, ce qui a entraîné une congestion dans les ports pour décharger. Y compris avec les dockers qui ne sont pas immunisés contre le Covid, il n'y a pas d'immunité ouvrière, hein, comme on dit. Et donc, ils se sont retrouvés en sous-effectif pour opérer. Mais il y a aussi donc, cette logique des transporteurs, hein, puisque quand les frontières sont fermées, que le trafic s'est atrophié, les grandes compagnies maritimes, hein, qui sont un secteur très concentré, il y a genre 10 entreprises qui sont en 3 consortiums qui représentent 90% du marché. Ils ont mis en hibernation une partie de leur flotte, y compris d'ailleurs des fois en laissant l'équipage à l'abandon dans un pays qui n'était pas le leur, hein, qui se débrouille pour rentrer chez eux. En annulant des escales, des escales qui étaient prévues depuis longtemps, pour garder évidemment que les plus rentables. Et donc cette adaptation, ils ont fait une adaptation brutale de l'offre à la demande en baisse, ce qui a permis de contenir les prix durant cette période. Et quand l'activité est repartie, évidemment, ils ne sont pas pressés pour remettre en route les bateaux, justement pour faire monter les prix, pour limiter en fait l'offre. Comme c'est des cartels qui opèrent dans ce secteur, d'ailleurs avec l'approbation de l'Union européenne. Il y a eu un jugement en 2020 qui autorisait la cartélisation du secteur. Ils ont fait monter artificiellement les prix. Ils commencent même aujourd'hui encore, un an après, ils n'ont toujours pas encore mis en service l'ensemble de leur stock de l'avant. Ce qui fait que, par exemple, un conteneur qui pourrait être de Chine au Havre, ça revient à 7000 euros actuellement, contre 1500 euros un an avant. Donc un prix qui a plus que quadruplé, avec un délai d'acheminement qui a doublé lui aussi de 30 jours à 65 jours. À ça s'ajoute aussi tout un tas de pénuries en fait, dans un certain nombre de secteurs. Hein. On l'a vu récemment, avec une usine sans douille qui a fermé ses portes pendant 13 jours au mois de juin. Ils ont fermé par manque de pièces en fait, et notamment il y a une pénurie de semi-conducteurs, c'est des puces. voilà, qui donc pénurie évidemment qui pèse sur les salariés puisque si eux, bon, alors, on leur demandait de poser des congés s'ils voulaient être pris en charge à 100% du chômage partiel pour le réfutant. Voilà, c'est le partage en cours entre leurs congés et du chômage partiel. Les intérimaires évidemment sont mis à la porte. Voilà, en France, la moitié des entreprises industrielles connaissent des difficultés d'approvisionnement en juillet. Dans le bâtiment, c'est 60% et l'industrie automobile, c'est 83%. En Allemagne, la production industrielle a même décliné en fait en juin et pour le troisième mois consécutif. Donc là aussi, ce n'est pas un problème de débouchés ni de rentabilité qui fait de la production. Les carnets de commandes sont pleins, mais c'est les fournisseurs qui ne suivent pas. L'automobile manque de semi-conducteurs, le bâtiment manque de bois, la production de machines industrielles manque d'acier, de composants électroniques. Voilà. Et donc, en fait, même l'automobile a produit 25% de voitures en moins en Allemagne en juillet là, que l'année d'avant, à cause des manques de semi-conducteurs notamment. Pareil aux États-Unis, hein, deux tiers des PME industrielles signalent une augmentation des retards de livraison, etc. Voilà, pour revenir à la France, justement, l'industrie manufacturière, hier, qui avait quasiment gagné son niveau d'avant-Covid, l'activité de l'industrie manufacturière et de certains grands secteurs, comme l'automobile. Donc on voit que ça s'était remonté. Pour l'industrie manufacturière en Hongrie, en janvier, c'était quasiment le niveau de 2019, et puis ça replonge de 6%, et notamment l'automobile en bleu, enfin, la production de matériel de transport qui inclut l'automobile. Qui en chute. Voilà, alors cette pénurie, hein, chaque matériau a un peu ses causes. Hein. L'acier, par exemple, dans l'acier, ils ont fait un peu comme le transport maritime, c'est-à-dire qu'ils ont dû fermer les hauts fourneaux pendant la baisse, et puis avant de les redémarrer, ils ont quand même attendu, comme ça prend plusieurs semaines à arrêter et redémarrer, ils ont quand même attendu d'avoir de la visibilité avant de les redémarrer réellement. Voilà, et puis ils ne sont pas d'autant pas moins pressés que ça a fait monter les prix, donc en fait, ils ont quand même augmenté leurs bénéfices avec ça. Voilà, dans le plastique, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les maintenances pendant la crise sanitaire quand c'était fermé, et donc en fait, il y a eu plein de pannes. Voilà, les semi-conducteurs, donc je voulais discuter un peu plus des semi-conducteurs. Voilà, en fait, une partie, parce que c'est intéressant, puisque les semi-conducteurs, en fait, ça fait partie des secteurs que le capitalisme voit comme un secteur d'avenir. Voilà, ça fait partie notamment des secteurs, des sept secteurs là, du plan d'investissement qui est prévu par Macron pour la rentrée. Voilà, du coup, bon, c'est un secteur qui est très concentré en fait actuellement, qui est encore dominé par les États-Unis au niveau de la conception, mais qui a basculé vers l'Asie depuis déjà un certain temps. Qui les fabrique en fait, c'est notamment bon, il y a deux grandes entreprises, une taïwanaise qui est quand même pas négligeable, hein, c'est 600 milliards de capitalisation boursière, qui s'appelle TSMC, et puis Samsung en fait, qui est le deuxième plus gros, voilà, qui sont les plus, y compris ceux qui ont des grosses technologies. Et pourquoi c'est intéressant d'en discuter, parce que bon, c'est vrai que en fait, comme tout le monde parle actuellement, comme il y a la pénurie, tout le monde parle de dire ouais, on va reprendre. Il y a plein d'entreprises qui veulent réinternaliser notamment la production de semi-conducteurs. Bon, par exemple, tous ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle, les Google, Amazon et tout ça, qui font de l'intelligence artificielle ou des voitures autonomes, qui se posent le problème de réintégrer, de maîtriser en fait ce qui est le cerveau de ce qu'ils produisent. Et puis voilà, même l'automobile, par exemple Tesla, qui a dit qu'ils allaient racheter une ligne de production. En fait, il y a un comportement disons, de réintégration de cette partie-là qui est lié au fait qu'il y a une au-delà, en plus en fait, des problèmes de pénurie qui sont conjoncturels liés à la crise, il y a un problème de comme il y a une hausse, très forte hausse de la demande pour ce type de produit. Voilà, ça fait partie un peu de l'indépendance stratégique entre guillemets qui est visée. Ça fait partie de ces secteurs et Mais y compris l'Union européenne, hein, c'est Thierry Breton là, qui est maintenant commissaire européen chargé de la politique numérique, qui voudrait que l'Union européenne prenne 20% du marché mondial, ce qui est le double de ce qu'elle a aujourd'hui. Voilà, mais en fait, bon, alors pour l'Europe, c'est là que ça, c'est un peu, quand on va dans le détail, c'est un peu, il y a des côtés un peu, qui risquent quand même de rester beaucoup dans le discours. Puisque l'Europe, notamment, l'Europe, ils ont deux entreprises importantes qui en produit, c'est ST Microelectronics et NXP qui est l'ex-Philips. Voilà, mais qui font en fait des puces de faibles technologies qui sont surtout pour l'industrie et l'automobile. Mais surtout, en fait, le petit plan de Macron, là, de 20 à 30 milliards pour développer cet secteur, on va s'en comparer quand même au projet d'investissement dans les semi-conducteurs de la Corée du Sud, donc des Samsung, à 450 milliards. Et la Chine qui prévoit, pour rattraper son retard et devenir leader, parce que la Chine a encore besoin d'importer des semi-conducteurs, il prévoit 1400 milliards de dollars pour les 6 prochaines années. Voilà, donc on voit que les grands plans de Macron, enfin, du gouvernement français et puis même le monde de l'Europe, il n'y en a même pas vraiment pour parvenir à l'indépendance stratégique est un peu voilà, en dessous de ce qu'il faudrait pour y arriver. Même les États-Unis, hein, je ne vais pas parler des plans américains, du plan Biden, parce qu'il y a un topo spécifique demain après-midi, je crois, sur le plan Biden. Voilà, mais en fait, bon, avec ces plans-là, bon, même si le plan français il est un peu ridicule, il y a quand même le plan américain, il est nettement moins. Puis il y a la Chine aussi, évidemment, qui est là-dessus, mais la Chine, bon, qui est un peu dans une situation un peu différente. Mais il y a malgré tout, ça, pour les États-Unis et puis même pour l'Europe, en fait, il y a une sorte de, c'est ça qu'on peut discuter aussi, une sorte de changement de période, peut-être, qui se dessine. Avec, bon, là, il y a une sorte d'euphorie, il y a un peu une volonté de restructurer le capitalisme, quand même, notamment en visant tous ces nouveaux secteurs. Donc même si la crise a été assez particulière en termes de recomposition de capital, puisque c'est surtout des pauses qui ont été faites, il y a quand même ce projet de tout réorganiser pour l'après, une accélération en fait des réorganisations. On parle maintenant de transformation numérique, transformation énergétique, capitalisme vert, donc qui sont souvent des mots qui sont moins pour l'environnement que pour les profits du futur. Voilà. Mais en fait, donc il est possible en fait que la période néolibérale qu'on a connue, c'est-à-dire la période néolibérale, c'est pas que les États avaient disparu, hein, c'était toujours là pour venir au secours des entreprises, de la finance quand il y avait besoin et pour assurer l'ordre impérialiste mondial quand même, mais qui laissait faire en fait la politique industrielle, et donc qui laissait faire les marchés, qui laissait faire les industriels, les capitalistes et les industriels pour savoir qui peut investir. Or, il semble que peut-être, enfin, que si ça se concrétise en tout cas, mais pour une fois, il y a quand même des débuts de financement pour des projets industriels. Voilà, donc peut-être qu'on va passer dans une période un peu qu'on pourrait dire néo-dirigiste, voilà, certains appellent comme ça. Donc, bon, c'est une chose à discuter. J'ai fini, je voulais parler de l'automobile, mais. Mais je vais laisser, bon, on pourra reparler pour la discussion. En fait, voilà, alors évidemment, quand même, une des choses que je voulais souligner, c'est que donc, faire cette question, enfin, faire de. S'il y avait réellement un repli enfin, dans les États, un renforcement des États pour assurer en fait, ce qu'ils appellent l'indépendance stratégique, tout ça, ça veut dire aussi. Assurer, même surtout dans le cadre de pénurie, assurer les approvisionnements. Et vous imaginez ce que ça peut vouloir dire, hein, assurer les approvisionnements de matières premières, notamment ce qu'on appelle les terres rares, qui sont des matériaux essentiels à l'électronique de haut niveau. Donc c'est des choses auxquelles la bourgeoisie, évidemment, s'est réfléchie sérieusement. Donc je peux vous citer le président de la commission consultative des mutations industrielles, du Comité économique et social européen. Bon, c'est une sorte de truc de l'Union européenne pour réfléchir à l'économie. Qui n'est pas forcément suivi, hein, qui reflète quand même les préoccupations de la bourgeoisie. Donc il dit pendant trop longtemps, nous avons laissé cette question des approvisionnements en matières premières aux mains du libre marché de l'industrie dans l'espoir qu'elle se résoudrait d'elle-même. À présent, il nous faut toutefois reconnaître que si les entreprises devaient pouvoir bâtir leur chaîne d'approvisionnement comme elles l'entendent, il nous faut sécuriser certains maillons dont nous estimons qu'elles revêtent une importance stratégique pour l'Union européenne. Donc, en fait, ce qu'il propose, ce n'est pas des guerres coloniales, évidemment, c'est plus feutré que ça. Mais en gros, il faudrait diversifier les relations commerciales de l'Union européenne tout en aidant les pays en développement. Donc, c'est un peu vague, mais et à accroître le rôle de l'euro dans le commerce des matières premières critiques, pour bien sûr œuvrer à la création des conditions de concurrence équitables pour tous, mais équitables surtout et sans doute pour l'industrie européenne. Voilà, donc c'est vrai que c'est évidemment le renfermement des États, tout un tas de mesures protectionnistes qui ont déjà commencé avant la crise, hein, avec ce qu'on a vu avec Trump, l'America First et tout ça, qui risque d'être amplifié quand même avec cette crise. Voilà, elle peut avoir aussi des conséquences sur l'ordre mondial. Voilà, sans même parler d'Afghanistan, où pour le moment c'est les États-Unis qui s'enfuient et la Chine qui arrive avec ses projets d'extraction de matières premières là-bas. Mais bon, ça ne sera pas forcément toujours dans ce sens-là, on verra.
Alors, du coup, moi je vais parler un peu des perspectives après la récession. Est-ce qu'on peut en dire, en anticiper la question, et aussi j'ai pas mal parlé de la question de l'inflation et de la dette, et comment en fait, en tant que communiste révolutionnaire, on peut traiter cette question. Donc sur les éléments de la conjoncture, je passe un peu parce que Thierry a beaucoup expliqué un peu là-dessus, sur les prévisions. Donc voilà, des prévisions voilà, plutôt optimistes, comme avait dit Thierry, sur le FMI et de la Banque mondiale également. Mais ce que je dirais, moi, c'est que, et ce que il y a un peu tiré aussi, c'est que c'est une reprise essentiellement conjoncturelle, ça veut dire périodique, enfin, un caractère un peu temporaire. En fait, déjà, on peut dire qu'on a déjà une forte remontée de la croissance, mais qui est une remontée mécanique, du fait aussi de l'ampleur de la récession elle-même qui l'a précédée. Notamment, comme disait Thierry, dû à l'interruption des chaînes de valeur et de la production et de la vente d'un certain nombre de secteurs. Mais déjà, si on regarde en termes, pas annuels, mais en termes trimestriels, c'est-à-dire par trimestre la croissance, on voit déjà des variations importantes. On voit là, par exemple, qu'en France, au troisième trimestre, on était à 18,8% et tout de suite après, on retombe à moins... une récession trimestrielle de moins 1%. Voilà. En fait, on a, quand on regarde les contributions, on voit beaucoup la consommation. Sur le deuxième graphique, en fait, ça a une reprise de la consommation par la libération de l'épargne forcée qui était liée au confinement, que les gens ne pouvaient pas acheter les marchandises. Donc, cette reprise de la consommation accompagne largement cette reprise conjoncturelle. Mais voilà, c'est quand même un facteur très limité, temporaire, qui va pas durer. Et ce qu'on peut dire, c'est comme a dit Thierry, en fait, les États et les banques centrales ont limité la casse. En fait, les politiques budgétaires ont largement subventionné les entreprises pour éviter qu'elles fassent faillite. Donc, effectivement, comme montrait Thierry, il n'y avait pas beaucoup de faillite, etc. Il y a aussi également, comme disait Thierry, une augmentation du taux de chômage relativement limité, à part aux États-Unis où il n'y a pas eu de mécanisme de protection de chômage partiel. Mais tout ça au prix de déficits publics énormes qu'on va retrouver après la crise. Et je dirais qu'en fait, ils ont quelque part évité la catastrophe. Catastrophe qui aurait pu émerger sur la base de contradictions du système capitaliste mondial qui existait déjà avant la crise. Donc quelque part, dans cette crise, on n'a pas un mécanisme classique de dévalorisation du capital. Normalement, une crise, si on enlève la question de la politique monétaire et des politiques budgétaires, au sens marxiste, chez Marx par exemple, il explique qu'une crise, normalement, elle dévalorise du capital, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de faillites, ça dévalorise du capital constant, donc les machines, etc. L'augmentation du chômage, ça dévalorise le capital variable, donc la force de travail, et que du coup, cette dévalorisation de capital crée les bases en fait, d'une remontée du taux de profit et d'une reprise. Mais là, on n'a pas eu cette dévalorisation, donc on voit avec les faibles faillites, mais voilà, au prix d'une accélération, d'une exacerbation des contradictions qui étaient antérieures, donc elles n'ont pas été résolues par la dynamique propre du capitalisme du fait de l'intervention des banques centrales et des États. Alors pourquoi Pourquoi ils ont voulu éviter la catastrophe? Tout simplement parce que, bon, bah, d'une part, politiquement, sa situation deviendrait totalement incontrôlable. Une violence sociale qui se déchaînerait, une violence sociale énorme qui se déchaînerait, qui déboucherait potentiellement sur des situations insurrectionnelles, etc., ou en tout cas, crise politique. Et d'autre part aussi parce qu'aujourd'hui, la concentration du capital est devenue telle qu'à un moment donné, si on laisse faire faillite un certain nombre d'entreprises, ça va entraîner dans son sillage aussi d'autres entreprises qui peuvent être restées rentables dans certains secteurs. Donc voilà, cette dévalorisation, elle va entraîner une très forte récession assez longue pour pouvoir après recréer les bases d'une reprise de la croissance et du taux de profit. Donc le taux de profit, c'est le rapport entre ce qui est investi dans la production en termes d'équipement et de force de travail et les bénéfices qui sont réalisés. Donc il y a un certain nombre de camarades qui s'emploient en fait à mesurer le taux de profit. Donc là, souvent je vous montre ce graphique parce que ça montre un peu la dynamique mondiale. C'est une tentative de faire un taux de profit mondial en enlevant, en corrigeant en fait les proportions de chaque pays dans l'économie mondiale, leur pouvoir en termes de PIB. Et en fait, on voit que on a les années 80 une stagnation du taux de profit, voire une baisse dans un certain nombre de pays. Et ça reflète un peu ce que certains économistes, comme Larry Summers, appellent la stagnation séculaire. On est globalement dans une phase de stagnation. Et le fait que le taux de profit soit remonte pas à la hausse, en fait, ça fait aussi qu'on se retrouve avec des taux de croissance qui sont relativement faibles. Par exemple, depuis 2008, on n'a pas eu des taux de croissance très importants dans les économies les plus avancées. On n'a pas eu plus de 1, 2%, etc. Et donc, fondamentalement, l'analyse que faisait Marx sur la dynamique de la valeur se vérifie. On vit dans un mode de production qui, en même temps qu'il augmente sa capacité à produire des quantités toujours plus grandes de marchandises par la productivité, l'augmentation de la productivité, en même temps qu'il fait ça, en fait, la valeur totale qu'il crée chute et donc logiquement le profit. Puisqu'on ne peut pas baisser les salaires indéfiniment parce qu'il faut quand même que ça maintienne la reproduction de la force de travail. Bon, ça, je vais passer. Et voilà, et en fait, ces contradictions-là, on les voit, ce problème-là se manifeste à travers un surendettement des entreprises, comme la rentabilité du capital moyenne, en fait, est faible, hein, malgré les différences sectorielles dont parlait Thierry. Eh bien, en fait, les entreprises s'endettent énormément, et on voit que déjà avant la crise, on a une croissance de ce qu'on appelle les entreprises zombies. En fait, les entreprises zombies, ce sont des entreprises dont la masse des intérêts, c'est-à-dire les intérêts qu'ils doivent payer sur leurs dettes, que leur réclament leurs créanciers qui leur ont prêté, est supérieure. En tout cas, les profits qu'elles engendrent ne suffisent pas à rembourser leurs intérêts annuels. Donc, c'est des entreprises qui vivent totalement à crédit et en fait, si le jeu de la concurrence capitaliste classique jouait, en fait, ne pourrait pas survivre sans ce surendettement. Donc ça, c'est une manifestation de ce problème. Et donc là, on a vu qu'avant la crise, on avait une augmentation de ces entreprises zombies, là, qu'on voit sur le graphique, le pourcentage, hein, la courbe rouge, 12% en 2016. Et aujourd'hui, on est entre 15 à 20% dans les pays de l'OCDE. Et près de 200 grandes entreprises, selon Bloomberg aux États-Unis, ont rejoint en fait les rangs de ces entreprises zombies. Et donc, ça représente 20% des 3000 plus grosses entreprises qui sont cotées en bourse. Donc, ça, je vais passer, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai plutôt profité aux États-Unis. Oui, ici, rapidement quand même, pour resituer dans le contexte des contradictions antérieures, on voit par exemple en haut à gauche le profit net après impôt, en fait, qui est mesuré sur l'échelle de droite, et le profit net avant impôt sur l'échelle de gauche donc en dessous, et on voit que il y a une très forte contribution de la baisse des impôts au profit. En fait, ça, ce décalage entre les deux courbes, en tout cas dans la vitesse de croissance, montre que il y a une très forte contribution de la baisse des impôts. Donc en fait, malgré en fait les baisses d'impôts, les baisses de cotisations sociales, etc., les gouvernements globalement n'arrivent pas à faire repartir la machine capitaliste. Donc je passe sur la différence entre le taux et la masse parce que bon, en fait, on va pas avoir beaucoup de temps. J'ai pas mon chrono. Bon, disons que ça fait 10 minutes que je parle. Ok. Donc là, j'ai fait des entreprises zombies. Oui, donc en fait, ce qu'il faut en conclure, c'est que du point de vue des perspectives, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'on ne va pas avoir, on ne va pas repartir sur un cycle expansif du capitalisme. On ne va pas repartir sur un long cycle de croissance comme il y a eu après la Seconde Guerre mondiale post-1945. Mais globalement, on va en fait rester dans cette sorte de stagnation séculaire, cette longue dépression, disent d'autres, et avec des taux de croissance qui vont rester relativement faibles du fait de la persistance en fait de ces contradictions-là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et contrairement à ce qui a pu être dit avant la crise, où on disait, certains disaient qu'il va y avoir une reprise en V, c'est-à-dire forte récession, puis reprise au même niveau, sur la même tendance qu'antérieure, même si voilà, ils ont révisé en fait cette idée. En fait, on va plutôt avoir une reprise en racine carrée inversée, c'est-à-dire une forte récession, mais pas de retour à la tendance de croissance économique antérieure, et en tout cas une forte stagnation. Les banques centrales, donc là si on parle des questions monétaires, les banques centrales ont injecté, pour éviter cette catastrophe, comme je dis, énormément de monnaie dans les circuits financiers, donc que ce soit par le biais de rachats de titres de dette de l'État, en échange desquels ils fournissent des liquidités aux banques, ou par exemple la baisse des taux directeurs. Alors les taux directeurs, c'est les taux, donc là vous les voyez sur la droite, les taux directeurs des principales économies mondiales, c'est les taux auxquels les banques centrales refournissent les banques privées, commerciales, normales, en liquidité monétaire. Et plus ce taux est bas, et plus en fait les banques centrales peuvent se fournir très facilement en liquidité. Quelque part, on peut dire que c'est de l'argent bon marché qui peut être utilisé facilement pour faire un certain nombre d'opérations. Et on voit que par exemple, on a une forte croissance de la masse monétaire en circulation aux États-Unis qui a été de 25,8% en 2020. Vous voyez sur le graphique à gauche cette croissance phénoménale de la masse monétaire aux États-Unis. Et de son côté, la Banque Centrale Européenne a injecté 1850 milliards depuis le début de la pandémie. Donc, quelque part, on peut dire que les banques centrales, elles ont mis l'économie mondiale sous perfusion. Perfusion monétaire. Alors maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Et la question de est-ce que tout ça, ça débouche sur de l'inflation ? Parce que, par exemple, les économistes monétaristes des années 80 disaient que toute hausse de masse monétaire, enfin, je simplifie un peu le propos, mais toute hausse de masse monétaire se traduisait dans une hausse des prix dans le secteur productif. À vitesse de circulation constante, mais bon, je simplifie un peu parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, ce qu'on voit, c'est pas tellement une hausse des prix, enfin si on va le voir quand même, il y en a un peu quand même, et d'ailleurs c'est possible que ça revienne, mais fondamentalement, déjà, le mécanisme, ce qu'on voit le plus spectaculaire comme effet de cette croissance de masse monétaire, c'est non pas la hausse des prix des marchandises normales, mais la hausse des prix des titres financiers, donc on pourrait dire que c'est une inflation financière. Donc l'inflation, c'est un terme qui désigne en général l'augmentation générale des prix. Et donc là, on a une augmentation générale des prix des titres financiers. Donc, inflation financière, ça fait redécoller les prix des actifs. Donc des actifs, c'est par exemple des actions, des produits dérivés, enfin des titres financiers. Des actions, c'est les parts de la propriété des entreprises qui sont échangées sur les marchés. Je vais y revenir. Donc déjà, on voit que l'indice boursier américain la valorisation boursière des 5000 plus grandes entreprises des États-Unis par rapport au PIB, c'est-à-dire par rapport globalement à ce qui est produit dans l'économie, a fortement augmenté juste après la crise, et on est même arrivé à des niveaux plus élevés, bien plus élevés qu'avant la crise de 2008. Et donc on a vraiment cette déconnexion entre ce qui se passe dans la sphère du secteur productif et ce qui se passe dans la sphère financière, et on dit voilà, les bourses vont bien, etc. Donc tout va bien, mais en fait tout va mal, parce que en fait la question du CAC 40 par exemple, quand on dit ça monte, etc., c'est pas des profits, ce ne sont pas des profits parce que c'est pas de la création de valeur. C'est-à-dire qu'en fait tout ça, c'est ce que Marx appelait du capital fictif, c'est-à-dire des titres financiers qui représentent une valeur dans la sphère réelle. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut faire des investissements, bah, elle va aller sur le marché dit primaire des actions, c'est-à-dire là où elle demande elle lève des fonds. Elles vont demander, voilà, moi j'émets tant de, elles émettent, imaginons 100 actions de 100 euros pour avoir un investissement je suis venu en maths, mais 10 000, je ne sais pas combien, 10 000 d'investissement. Donc, si les financiers achètent leurs actions, bah voilà, ça va se traduire par un flux réel d'investissement dans l'entreprise, mais une fois que ces actions après sont échangées entre les capitalistes financiers eux-mêmes, ce qui va déterminer en fait la valeur de ces titres, ça va être simplement le rapport entre l'offre et la demande. Donc en fait la valeur de ces titres peut très bien se déconnecter largement de la valeur qu'elle représente en fait dans l'économie réelle. Et quand on a une injection de masse monétaire comme ça, avec des crédits à bon marché, en fait les sociétés financières, quand la profitabilité du capital est faible dans l'économie réelle, elles vont l'utiliser, cela pour investir, voilà, spéculer dans la finance, et ça fait monter les prix des titres. Mais en fait, la réalité, c'est que tout va mal, en fait, dans le secteur réel. Donc, les bourses sont au plus haut, et ça explique aussi, alors tout ça, juste, qu'est-ce qu'on a pas, il reste. Bon, ça explique rapidement en fait ce que j'appellerais la valse des milliardaires, c'est-à-dire qu'en fait là récemment vous avez vu Elon Musk, et puis après c'est LVMH qui devient première fortune mondiale, etc. En fait il y a eu une telle variation, augmentation des prix des titres financiers que comme on calcule, quand on dit la fortune des milliardaires, dans cette fortune-là il y a tous les titres financiers. Et donc du coup, quand la valorisation des titres financiers augmente, la fortune des milliardaires augmente. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'argent trébuchant, enfin plus d'argent sonnant et trébuchant dans les mains, c'est juste que leurs titres en fait ont augmenté. Donc, il y en a certains aussi, beaucoup, qui ont aussi beaucoup profité de la crise au sens réel du terme avec l'argent, mais cette valse des milliardaires est plutôt liée à la question de la survalorisation du capital fictif. Donc voilà, il y a tout un débat. Donc là, on a dit que voilà, la masse monétaire augmentait. Déboucher sur une forte inflation financière. Vous me coupez s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. On a dit que ça provoquait une forte inflation financière, une survalorisation du capital fictif. Mais la question, après, il y a une autre question qui se pose. Est-ce que ça va aussi se traduire par un retour de l'inflation réelle, telle qu'on a pu la voir dans les années 70 ou même avant, c'est-à-dire une augmentation générale des prix des marchandises, que ce soit des marchandises pour la consommation des travailleurs ou des biens d'investissement, des matières premières, etc. Bon, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un contexte d'inflation. Quand même, il y a vraiment de l'inflation aujourd'hui, une inflation modérée, assez faible. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, on est à 5%, dans la zone euro, à 2%. Donc, pour l'instant, voilà, cette inflation modérée, elle est plutôt bénéfique pour les capitalistes, parce que comme ils maintiennent les salaires, les salaires réels, c'est-à-dire dans leur capacité à acheter des marchandises, parce qu'évidemment avec l'inflation, les salaires augmentent, mais la question c'est qu'est-ce que tu peux acheter avec ton salaire. Donc il faut voir les salaires réels, donc ils maintiennent les salaires au même niveau globalement, Et du coup, ça permet au taux de profit de regagner un peu de marge grâce à cette inflation modérée. Enfin, à ce moment-là, les travailleurs perdent un peu de pouvoir d'achat quand même. Donc, du coup, ce n'est pas une inflation, c'est une inflation qui est bénéfique uniquement pour les capitalistes. Parce que parfois, on dit oui, c'est bénéfique pour les deux, mais là, c'est bénéfique pour les capitalistes. Mais il y a la question de quand est-ce que ça va commencer à se gâter. Quand, pour les capitalistes, la question de l'inflation, évidemment, les capitalistes veulent maîtriser l'inflation et pas pour, c'est pas pour rien. Puisqu'une inflation, moi je pense qu'une inflation plus poussée à moyen terme, elle est possible. Hein, la crise a fait fermer un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire, même si on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de faillites, mais il y a quand même une chute partielle des capacités de production. Et l'investissement, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ne va pas repartir significativement à la hausse. Donc, les rapports entre offre et demande peuvent être rentrer dans un rapport où, en fait, ça va faire monter les prix avec une demande supérieure à l'offre. Mais bon, c'est une question un peu compliquée qu'il faudrait creuser. Moi, je ne suis pas spécialiste des questions monétaires, mais c'est vrai qu'on manque d'une théorie de l'inflation. Mais il y a des universitaires marxistes là, qui sont justement en train d'écrire un livre sur cette question qui va sortir en juin 2022. Je pense que ce sera intéressant de l'étudier. Donc, une inflation plus poussée est possible. On peut revenir dans une forme de stagflation, avec stagnation économique d'une part et inflation d'autre part. Puisqu'en fait, il y a des économistes keynésiens qui disent en fait, il n'y aura pas de retour de l'inflation possible parce qu'il y a des capacités de production excédentaires. Mais la réalité, c'est que dans l'histoire, on a déjà vu des situations où en fait, on a de l'inflation, une augmentation des prix et des capacités de production excédentaires, comme dans les années 70, tout simplement parce que ce qui détermine l'investissement, c'est le taux de profit. Et donc, du coup, il faut une reprise du taux de profit pour pouvoir faire repartir l'investissement pour répondre à la demande. Donc pour l'instant, les taux d'intérêt sur les dettes des entreprises sont bas. Donc la question, c'est aussi quel peut être l'impact de l'inflation sur les taux d'intérêt des entreprises. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait énormément d'entreprises qui étaient surendettées avec 20% d'entreprises zombies dans les pays de l'OCDE. Et effectivement, si on a une inflation qui s'accélère et que du coup, ça ferait remonter les taux d'intérêt des nouveaux emprunts des entreprises, ça ferait monter le coût de l'emprunt des entreprises rapporté à leur profit. Et ça pourrait provoquer des faillites importantes, surtout dans ce contexte où il y a beaucoup d'entreprises surendettées. La faillite, là, à ce moment-là, pourrait se propager, y compris au système bancaire, puisque si les entreprises sont plus en capacité de rembourser leurs intérêts, ça va poser des problèmes dans la stabilité du système bancaire. Et donc, dans ce contexte, les banques centrales se retrouvent face à un dilemme. C'est-à-dire qu'en fait, pour limiter cette inflation, il faudrait qu'elle fasse baisser la masse monétaire en circulation. Alors, pour faire baisser la masse monétaire en circulation, il faudrait qu'elle, par exemple, remonte leur taux directeur. Donc, j'ai expliqué ce que c'était que le taux directeur tout à l'heure, ou alors il faudrait qu'elles diminuent leur programme de rachat d'actifs, de dettes de l'État, qui aussi contribue à l'accroissement de la masse monétaire. Mais si elles font ça, le problème, c'est qu'elles le savent très bien, d'ailleurs elles le disent, hein, si elles font ça, c'est qu'elles risquent de déclencher un nouveau crack sur le marché des actions, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, cette survalorisation du capital fictif est liée à l'accroissement de la masse monétaire. Et à partir du moment où on limite l'accroissement de cette masse monétaire, ça va faire descendre sur Terre toute cette spéculation et en tout cas créer une panique financière. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, les banques centrales maintiennent leur taux directeur bas. Mais en même temps, du coup, le dilemme, c'est ça, c'est que si elles les maintiennent bas, ça ne fait que gonfler les bulles spéculatives. Donc, en fait, en voulant éviter le crash, elles accroissent les conditions de possibilité du crash. Donc, on est vraiment face à une contradiction un peu insoluble pour les banques centrales. Donc, elles sont un peu en recherche de nouveaux outils. Du côté des États, il y a eu un énorme endettement pendant le conflit confinement. J'ai perdu mes feuilles, moi. Oui, donc il y a eu un endettement très important des États bourgeois pendant la récession de la Covid, puisqu'il y a énormément de dépenses, de subventions aux entreprises, de limitation des coûts de production des entreprises, etc. Par exemple, en France, la dette, elle est passée de 100% du PIB avant la crise à environ 120% après la crise. Donc des exonérations d'impôts, de cotisations sociales pour sauver les entreprises de la faillite, pour venir au secours des profits. Beaucoup d'économistes de la gauche, des économistes de la gauche radicale ou de la gauche en général, considèrent qu'étant donné qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont bas, l'endettement de l'État disent que ce n'est pas vraiment un problème et que les coupes budgétaires qui s'en suivraient, parce qu'ils se préparent à faire des coupes budgétaires, en gros, pour eux, c'est un truc purement idéologique. En fait, ils disent que comme les taux d'intérêt sont bas, on peut continuer à s'endetter. Et si on mettait un gouvernement de gauche à la place, il pourrait s'endetter pour faire des programmes d'aide sociale, etc. Donc, ils disent que c'est purement idéologique. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment purement idéologique, pas idéologique du tout. Il y a des éléments d'idéologie qui le justifient, mais c'est lié à des nécessités présentes dans l'économie aujourd'hui. Le ratio entre la dette et le PIB, c'est pas vraiment un problème. Il y a déjà eu des pays qui ont atteint des ratios dette-PIB très importants, c'est-à-dire la dette rapportée à la production de valeur en général dans l'année. Par exemple, le Japon, je crois, a eu énormément de dettes. Je crois qu'ils ont atteint les 200% de dette-PIB, etc. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est d'une part les perspectives de croissance et de productivité. Donc déjà, là, on n'est pas bon, comme je l'ai dit. Et ensuite, la question des intérêts. Alors, aujourd'hui, parce que c'est ça qui est important, c'est la question des intérêts, parce que comme les États font rouler leurs dettes, c'est-à-dire qu'en fait, ils rachètent, ils se réendettent pour rembourser les dettes, c'est vrai que la dette elle-même n'a pas beaucoup d'importance, mais la question des intérêts, ça a une importance. Et même si les taux d'intérêt sont bas, un endettement supplémentaire, ça ajoute à la masse des intérêts que le gouvernement doit rembourser aux créanciers. Du coup, ça prend une part de plus en plus importante dans ses dépenses publiques, ou en tout cas vis-à-vis de ses revenus fiscaux. Donc là, on voit par exemple qu'avec interest to tax, ça veut dire les intérêts rapportés aux revenus fiscaux des États, on a une augmentation de ce rapport entre les revenus fiscaux et les intérêts que pays payent. Alors, dans les économies des centres impérialistes, c'est plutôt faible, puisque ils sont considérés comme solvables, et donc du coup, les capitalistes financiers aiment bien le titre de dette de l'État français, allemand, etc. Mais par contre, sur les marchés émergents, c'est-à-dire les pays plutôt périphériques, mais qui ont un développement industriel important, ou alors même les pays les plus pauvres, ce rapport entre l'intérêt et les intérêts et les revenus fiscaux augmente énormément. Donc là, on peut voir déjà que si il commence à y avoir des gros problèmes sur la dette, si on déboule sur une crise de la dette, ça va toucher en premier les pays de la périphérie de l'ordre mondial, les pays dominés par l'impérialisme. C'est pour ça que c'est une nécessité pour les gouvernements bourgeois de faire payer la population pour rembourser les intérêts, puisque ça prend une part plus forte dans les dépenses publiques, et donc du coup ça limite leur marge de manœuvre pour pouvoir subventionner les profits des entreprises et maintenir, comme je l'ai dit, l'économie dans une forme de stabilité, éviter le crack. Oui.
Juste le principe, il est de quel âge
Il est de 2007 à 2020. 2007 la première barre, 2020 la deuxième. Et les barres que vous voyez, c'est le ratio de dette-PIB, où je disais que ce n'était pas vraiment important. Et la ligne jaune, c'est ce qu'il faut regarder, quoi. C'est important, ça. C'est le rapport entre les intérêts et les revenus fiscaux. Donc, évidemment, ils vont chercher à nous la faire payer. faire payer les intérêts. L'État français a déjà mis un comité d'experts pour voir où est-ce qu'on pourrait encore grappiller du fric. Hein. Bon, il y a encore de la marge. Hein. Il y a l'éducation nationale, il y a les cotisations sociales, il y a tout un tas de choses qu'on peut encore grappiller pour pouvoir faire payer la dette, enfin, les intérêts de la dette aux travailleurs. Et ensuite, voilà, il y a tout un tas de débats sur ces questions, du coup. Et donc là, on a des représentants de la gauche réformiste, alors que ce soit la gauche réformiste modérée ou la gauche dite radicale, donc des gens qui cherchent des solutions à l'intérieur du système capitaliste. Il y en a pas mal, hein, mais là je vais donner juste deux exemples. On a par exemple une tribune que Philippe Martinez, un secrétaire général de la CGT, avait signée, qui propose d'instaurer une taxe Covid sur les plus riches, donc ils appellent ça la taxe Covid, pour rembourser la dette de l'État. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est la question de qui détient la dette. La dette elle-même, elle est déjà détenue via les institutions financières, majoritairement, alors pas totalement, mais par les plus riches. Donc du coup, cette taxe reviendrait tout simplement à taxer les plus riches pour rembourser les plus riches. C'est plus intéressant que de taxer les plus pauvres pour rembourser les plus riches, mais bon, c'est pas très intéressant non plus. Et il y a certains économistes, comme Thomas Piketty, par exemple, qui proposent d'annuler la dette publique qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Alors, il faut savoir qu'effectivement, la Banque Centrale Européenne, pendant la crise, a beaucoup pris en charge les nouveaux emprunts de l'État, donc en les rachetant. Elle les a transformés en monnaie, c'est une forme de monétisation de la dette publique. Et donc, du coup, le poids... La BCE détient de plus en plus de dettes publiques dans la zone euro. Alors, je me souviens plus du chiffre, environ 30%, je crois, mais peut-être que je dis peut-être c'est plus. Mais ce n'est pas très intéressant non plus comme mesure, en fait, parce que les États, déjà, ne remboursent jamais les dettes qu'ils détiennent auprès de la Banque Centrale Européenne. En plus, les intérêts qui sont versés à la Banque Centrale Européenne sur ces titres de dette, en fait, la Banque Centrale, elle les reverse ensuite aux États. Donc en fait, le véritable poids de la dette, il n'est pas du côté de ce que détient la Banque Centrale Européenne, mais du côté de ce que détiennent les capitalistes financiers qui détiennent la dette. C'est ça qu'il faut régler comme problème. Et on va voir ça plus tard.
Il me reste combien de temps ?
Bon, je passe sur la monétisation du déficit public permanent. Enfin, ça, on verra peut-être pour le débat. Ça, c'est la proposition phare des antilibéraux aujourd'hui, mais je ne vais pas avoir le temps. Et je vais donner quelques pistes sur qu'est-ce que nous, on pourrait dire de cette question de la dette, comment on pourrait proposer de la résoudre en tant que communiste révolutionnaire. Donc déjà, ce ne serait pas uniquement l'annulation de la dette publique détenue par la BCE, mais l'annulation de l'ensemble des dettes publiques. Et pour rendre ça possible, il faudrait socialiser l'ensemble du système bancaire et assurantiel. Ça, j'ai rajouté assurantiel parce que c'était l'année dernière Éric Toussaint qui avait rajouté la nuance et je trouvais ça intéressant. Parce qu'en fait, il faut prendre aussi en compte la question des assurances et des fonds de pension qui détiennent une bonne partie de la dette publique des États. Donc, on prend le contrôle de tout ce système bancaire et assurantiel, on le met sous contrôle des travailleurs, d'un gouvernement au service des travailleurs, un gouvernement on dit ouvrier entre guillemets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'annulation de la dette publique, elle aura pour effet du coup la dévalorisation du patrimoine financier des riches qui détiennent cette dette. Donc c'est quelque part on s'en fout un peu. C'est une forme de redistribution. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a aussi des petits épargnants, des travailleurs qui épargnent de l'argent. Et dont les institutions financières qui détiennent qui hébergent cette épargne, placent cette épargne dans justement des titres de dette de l'État. Donc il faut effectivement tout le contrôle du système pour essayer de séparer en fait la dévalorisation pour les plus riches de la dévalorisation pour les travailleurs et essayer de conserver en fait l'épargne des travailleurs qui aurait été accumulée sous le mode de production capitaliste, même si après, évidemment, on limiterait l'usage de cette épargne à la simple acquisition de biens durables, et évidemment, on interdirait toute la spéculation, les placements, etc. Ce sera fini dans l'après-capitalisme. Enfin, ce serait fini si on arrivait à prendre le pouvoir, ça veut dire, parce que je ne dis pas que c'est inéluctable après les thèmes. Et dans les pays où en fait il y a des systèmes de retraite par capitalisation, c'est-à-dire qu'en fait c'est des systèmes, c'est là que Macron veut nous emmener, hein, c'est-à-dire qu'en fait on ne cotise pas à une caisse de retraite générale pour pouvoir avoir sa retraite, mais en fait tout simplement on épargne, et en fait les fonds de pension utilisent notre épargne pour faire des profits fictifs. Et puis les redistribuer sous forme de retraite, et bien là, on pourrait imaginer d'essayer de maintenir les retraites des travailleurs via la mise en place d'un système de retraite par cotisation qui sera d'autant plus désiré que les retraites des fonds de pension privés seront perdues, et ce sera d'autant plus possible puisqu'on aura socialisé l'ensemble de la valeur produite dans l'économie. Donc du coup, on pourra très bien maintenir les retraites des travailleurs malgré l'annulation de la dette publique. Voilà, donc je m'arrête là et on peut commencer le débat.